Bonsoir à chacun, chacune d'entre vous, surtout que bon, ça demande du courage de venir avec la pluie, le déluge, le froid, la nuit. Mais finalement, ben voilà, vous êtes là et c'est bien. Donc, on est quand même plus nombreux que ce que je ne pensais, mais en fait, ça permet quand même de, peut-être, si vous avez des questions, des remarques à faire chemin faisant, ça sera possible. Sur une question donc qui est assez délicate quand même, finalement, puisque nous sommes quand même en chemin vers Pâques, dans ce temps de carême, eh bien, nous avons donc choisi des textes, avec Jérôme, des textes qui permettraient de réfléchir sur cette question de la mort du Christ. Pourquoi est-ce qu'il est mort? En quoi est-ce que ça nous avance, peut-être? C'est un peu la question, peut-être, qu'on peut se poser avec les textes que nous avons choisis, donc celui qu'on appelle la parabole des vignerons homicides, donc dans l'évangile selon Luc au chapitre 20, c'est Jésus qui parle, propose cette parabole et avec une interprétation qui peut sembler un peu terrible finalement. Et puis nous avons choisi aussi au chapitre 23 du même évangile selon Luc, eh bien carrément le récit de la croix. Donc avec ces deux grandes pages, nous vous proposons de réfléchir sur ce sens peut-être de la croix, de la mort du Christ. Est-ce qu'on est sauvé par la mort du Christ ou sauvé malgré la mort du Christ, hein, je dirais presque. Parce que dans un sens, ça peut sembler à juste titre être un scandale que le Christ soit mort et on ne voit pas trop à première vue en quoi est-ce que ça serait utile qu'un homme meure pour en sauver d'autres dans ces circonstances-là. Mais peut-être que Jérôme a repris son souffle pour vous souhaiter une bonne soirée aussi.
Très bonne soirée, excusez-moi de mon retard, j'arrive de la rive gauche, de l'autre rive. Le sens de la croix, et puis ce qui est intéressant dans le thème qui nous occupe cette année, c'est d'articuler bien sûr l'événement de la croix, puisque c'est un événement, c'est quelque chose qui est arrivé, qui a eu lieu, comme on dit en grec, egeneto, ewenit en latin. Il y a eu un événement, quelque chose qui fait de la religion chrétienne un réalisme. Évidemment, la religion chrétienne peut toujours être embrumée, entachée de gnose, d'onirisme, de merveilleux, etc. Mais il ne faut jamais oublier qu'on parle de quelque chose qu'on résume dans le beau mystère de l'incarnation, de quelque chose qui est profondément réel. On doit se déterminer, on doit risquer notre foi sur des événements, des choses qui ont marqué l'histoire, qui ont gercé l'histoire, qui ont comme un visage qui est tavelé par le temps, voilà, il y a quelque chose qui a marqué l'histoire profondément. Et cet événement de la croix, effectivement, pouvoir le penser avec notre thème annuel de ce lien, de ce dialogue entre le Père et le Fils. On a choisi deux textes de Luc. Les textes de Luc ne sont pas très présents cette année dans le lectionnaire de l'Église catholique, puisque nous suivons l'Évangile de Marc. Mais dans l'Évangile de Luc, il y a cette parole, vous savez, « Nul ne connaît le Père sinon le Fils, nul ne connaît le Fils sinon le Père ». C'est un petit peu avant les textes de ce soir. C'est très joannique, d'ailleurs, ça fait penser à du Saint Jean. Et souvent, d'ailleurs, distraitement, on attribue cette citation à Saint Jean, cette relation permanente, privilégiée, intime du Père et du Fils. C'est pourtant Saint Luc. Ce qui est intéressant, ça veut dire que nul n'arrive à connaître vraiment le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il l'a donné de le connaître, dit Saint Luc. C'est-à-dire que pour connaître le Père, pour connaître et connaître au sens du mot en hébreu, c'est-à-dire de connaître de façon vraiment affective, intime, charnelle, il faut passer par le Fils. Mais pour connaître bien le Fils, pour savoir que Jésus est vraiment le Christ, le Messie, l'élu, l'envoyé, le Fils de David, celui qui a reçu l'onction, etc., pour connaître l'identité plénière de Jésus, eh bien, il faut voir comme voit le Père, puisque seul le Père connaît vraiment le Fils. Donc il y a ce mystère d'un dialogue extraordinaire, et le mystère d'Israël finalement culmine là-dedans, comme si finalement le monde et l'histoire n'existaient que pour cet amour, hein, qui résume l'histoire humaine, cet amour qui est une respiration commune, une haleine commune, qui est le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que nous recevons au baptême, que nous demandons sans cesse, c'est par le Saint-Esprit, par l'Esprit Saint, le souffle Saint, que nous pouvons entrer dans ce mystère d'amour, ce face-à-face incroyable, et pouvoir nous aussi saisir quelque chose, entrevoir quelque chose de cette manière dont le Père connaît le Fils et dont le Fils connaît le Père. Donc voilà, le mystère de la croix, il faut qu'on garde en toile de fond, hein, cette économie, cette écologie du Père et du Fils, parce qu'au fond, comme le dit Marc, est-ce qu'il fallait la croix? En tout cas, la croix, on le dira, mais on peut déjà le dire, dévoile quelque chose du dessein du Père. Mais un dessein qui n'est pas, donc un projet de Dieu, mais qui n'est pas un déterminisme au sens tragique. Jésus n'est pas une victime au sens où il serait comme un animal en cage, condamné dès le début, victime d'un déterminisme, d'une machine infernale qui le broierait de plus en plus. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, on voit à quel point c'est un homme libre, qui durcit sa face, dit-on, dans le chapitre 9, pour aller vers Jérusalem. Il y a ce pli dans le récit. Jésus fixa sa face, il durcit sa face pour monter à Jérusalem. C'est un homme libre qui fait de sa passion une action. Là où on croit qu'il pâtit, en fait, il agit. Là où on croit qu'il est passif, en fait, il est suprêmement actif. Mais il n'empêche que la croix appartient quand même au mystère du dessein du Père. Et en même temps, c'est le crime des hommes. C'est les deux en même temps. Ce qui ne veut pas dire que le crime des hommes soit la volonté du Père. Mais c'est ça qui est très difficile, c'est de penser en même temps le dessein, le projet de Dieu sur l'homme et le crime des hommes qui met le Christ en croix et qui ne cesse de le mettre, d'ailleurs.
Parce que c'est intéressant aussi, je crois, c'est quand tu dis, voilà, c'est un événement, c'est arrivé. Là, il y a quelque chose quand même que l'on entend souvent dire aujourd'hui dans le dialogue avec l'islam. Ils nous disent non, ce n'est pas arrivé. Et d'ailleurs, il vient d'y avoir, j'ai vu dans la presse ces jours-ci, qu'ils auraient retrouvé un évangile ancien, en fait, qui serait en ce moment en train d'être retraduit, retravaillé. Et cet évangile, alors, faudrait regarder, vous regarderez dans les, je ne sais pas, c'est dans Le Monde, Le Point, la grande presse nationale, cette semaine-ci. Donc, en fait, c'est un évangile qui irait dans le sens des musulmans, disant que Jésus n'a pas été crucifié. Et qu'en il a échappé, c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est peut-être je ne sais pas quoi, enfin bref. Il serait, lui, selon l'islam, hein, c'est ce que dit le Coran, il serait, lui, enlevé au ciel sans être mort, et il reviendrait. Alors, c'est vrai que ça correspond, à mon avis, à un certain nombre d'écrits, ce qu'on appelle apocryphes, mais c'est-à-dire une certaine sensibilité chrétienne qui n'ont pas été retenues par le courant majoritaire du christianisme. Et donc, on peut trouver, effectivement, des écrits du 2e siècle, surtout du 3e, 4e, qui pourrait dire ce genre de choses, avec l'idée que le Christ ne serait pas mort sur la croix. À mon avis, ça ne fait aucun doute, historiquement. Je ne connais pas d'historien qui dirait que Jésus n'aurait pas existé et que s'il a existé, il ne serait pas mort sur la croix. Et moi, je trouve que le plus invraisemblable, c'est d'imaginer que Jésus-Christ serait comme une sorte de fantôme ou une sorte de je ne sais pas quoi, serait dans le ciel, peut-être entre Saturne et Mars, je ne sais pas, ou un peu plus loin encore, en train de flotter dans l'espace intersidéral en attendant de revenir. À mon avis, ça ne fait pas tellement sens. Je ne crois pas aux fantômes. Et donc, quand on regarde de toute façon l'histoire, si vous voulez, les Juifs qui n'étaient pas... Les Juifs qui ne sont pas devenus chrétiens, donc qui pensaient que Jésus était un imposteur, qu'il n'était pas le Christ, eh bien, ils n'ont pas dit qu'il n'existait pas ou qu'il n'était pas mort. Non, ce qu'ils racontent, on le voit dans le Talmud, ils disent que Jésus était un sorcier et troublait Israël. ça correspond assez bien finalement à ce que l'on voit de sa vie. Et puis que comme bon, qu'il mettait un peu le bazar, le Sanhédrin a dit, bah, écoutez, il faut commencer à voir ce qu'on va faire. Il a été arrêté, il y a eu un jugement, et ils disent, personne n'est venu pour le défendre, pour le soutenir comme témoin. Tout le monde s'est débiné, ça correspond encore assez bien à l'évangile. Et finalement, il a été lapidé aux environs de Pâques, machin. Donc alors, est-ce qu'il aurait été lapidé? Est-ce qu'il aurait été crucifié? À mon avis, le fait d'être crucifié, si on regarde au point de vue de la véracité, de la plausibilité de ce récit, comme tu le dis, Jérôme, c'est pas quelque chose qui s'invente, parce que la croix, c'était vraiment une ignominie. C'est ce qu'on met dans les... c'est ce que dit Paul, par exemple. Hein. Mais je crois que c'est une réalité. Les premiers chrétiens n'étaient, dans les trois premiers siècles, il n'y a aucune représentation. Ils disent le Christ a été crucifié, mais ils n'en font pas du tout un étendard. Parce que, si vous voulez, la croix, ça n'amusait personne à l'époque. C'était une honte, c'était douloureux, c'était pour les esclaves, c'était pour les criminels. Et donc, les chrétiens reconnaissent que le Christ a été crucifié, mais... ils en sont ni fiers, ni très heureux, ni très contents. Le symbole de la croix comme symbole chrétien, ça apparaît au 4e siècle, 5e siècle. Avant, on représente Jésus en berger, en bon berger, voilà. On représente. Alors, souvent glabre, souvent comme un enfant, un adolescent de 17 ans qui montre un peu cette nouveauté de vie, cette forme. Parfois avec comme un barbu, au contraire, mais c'est plus le Christ enseignant. Donc selon un peu, voilà, la conception, peut-être l'accentuation que chacun donne, reconnaît au Christ, soit s'intéressant plus particulièrement à la nouveauté, au jaillissement de vie qu'il y a dans la vie en Christ, d'autres s'intéressant plus à son message, à ce dont il a témoigné, ce qu'il a enseigné. Mais pour les chrétiens et pour les juifs du premier siècle, du deuxième, ça ne fait aucun doute, Jésus a été crucifié, ou en tout cas a été exécuté et abandonné par ses disciples, en gros, quoi. Ça, c'est, je crois qu'on peut le dire historiquement, c'est très très plausible. Alors ensuite, oui, voilà, je crois que moi j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est que la croix dévoile quelque chose du projet de Dieu. Et mystère, d'ailleurs, ça veut dire ça. Mystère, c'est pas quelque chose qui est incompréhensible ou abracadabrant. C'est devenu comme ça dans la bouche de certaines personnes qui connaissent pas le sens de ce mot grec. Mais le grec, en grec, mysterion, c'est une révélation, un secret révélé. Et donc, effectivement, c'est bien ça. Sur la croix, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de Dieu qui se révèle. Et à mon avis, dans cette parabole, justement, des vignerons, c'est vraiment la mission du Fils, c'est de transmettre quelque chose qui vient du Père, de manifester un appel du Père. Et je crois que finalement, malgré la mort, et peut-être dans la mort même, il y a quelque chose du message qui se dit, et donc ce qui semble être un échec, et ce qui est un échec, évidemment, à mon avis, Dieu ne voulait pas que son Fils meure, ce qui est un échec, en fait, est un échec partiel, où Dieu retourne cet échec en victoire, ce qui est, à mon avis, vraiment le propre de Dieu, de transformer la mort en vie, de transformer la mauvaise volonté en quelque chose de plus grand encore. Donc oui, il y a quelque chose quand même d'un triomphe, malgré tout, j'allais dire, dans cet horrible événement de l'exécution d'un homme, innocent. Oui, si, pour peu qu'on puisse être innocent en vivant dans ce monde. Mais enfin, ça, on peut en parler, c'est autre chose. Donc, peut-être on peut lire ce texte, non?
Oui, juste une petite...
Vas-y, oui.
Oui. C'est vrai que la crucifixion, enfin, pour prolonger ce que tu dis... dans l'apologétique des trois premiers siècles, c'est-à-dire le discours que les chrétiens doivent tenir pour rendre compte de leur foi. Hein. Il y a eu toute une floraison, évidemment, de discours à l'oral, mais aussi à l'écrit. Les premiers pères de l'Église, qu'on appelle les apologètes, d'ailleurs ceux qui doivent défendre la foi, vous vous doutez bien qu'une mort par crucifixion, ça ne collait pas. Hein. On connaissait les textes du serviteur souffrant, certes, mais un châtiment infligé en plus par des païens, et puis infligé pas de manière unique ou exceptionnelle, mais de façon massive. On sait que Hérode a crucifié à tour de bras, et qu'il y avait quelquefois des centaines de crucifixions hein, sur les routes qui menaient à Jérusalem pour intimider. Donc un supplice qui est à la fois un supplice d'esclave, qu'on ne donne pas à un citoyen romain, d'ailleurs Paul ne sera pas crucifié, et puis un supplice tristement banal, au sens où Jésus est supplicié comme un autre crucifié. C'est très difficile dans un argumentaire qui se veut un petit peu rationnel, et on voit bien, c'est ça qui est extraordinaire dans les évangiles, c'est qu'on ne cache pas ça. On le dit sans exhibitionnisme, sans voyeurisme, mais précisément, il faudra plusieurs siècles avant que la crucifixion finisse par être comprise, et par la manière, ce qu'elle dit de Dieu, évidemment. Et c'est en ça qu'elle est, au fond, un scandale. Et je le dis parce que, précisément, on va trouver ce mot dans le texte. Elle est une pierre d'achoppement pour quelqu'un qui veut prouver la véracité de la foi chrétienne, pour le dire de façon triviale. C'est une pierre d'achoppement, c'est-à-dire qu'on bute dessus. Et la pierre d'achoppement, en grec, c'est scandalon, c'est le scandale. Et précisément, on va retrouver ça. Et cette pierre d'achoppement est devenue la pierre d'angle. Et Jésus le dit. Mais pour le comprendre et pour le faire passer par le prisme du cœur, par le prisme de la foi existentielle, évidemment, il a fallu plusieurs générations. Et de fait, l'islam, la manière dont l'islam envisage la crucifixion, est une sorte de combinaison à la fois, c'est assez étrange parce que l'islam ne veut pas voir en Jésus la présence du Dieu d'Israël dans l'histoire, et simultanément, en en faisant le plus grand des prophètes, un des plus grands prophètes, ne veut pas qu'un prophète meure crucifié. Donc il y a ce qu'on appelle le docétisme. Le docétisme, c'est ce qu'on a appelé une hérésie, c'est-à-dire on dit, voilà, il est mort en apparence, mais voilà. Et c'est étonnant que les chrétiens qui ont une vision plus haute de l'identité de Jésus, en revanche, passent par la croix et ont réussi à assimiler le mystère de la croix. Enfin, autant qu'on puisse évidemment l'assimiler, parce qu'elle est inassimilable, mais en ont fait un mystère théologique, alors que précisément l'islam est resté d'une certaine manière avec une vision binoculaire, c'est-à-dire qu'à la fois ils ont une vision moins haute de Jésus, mais plus haute face à la crucifixion. Ils ne peuvent pas admettre qu'un prophète de Dieu soit
exécuté comme ça,
victime d'un supplice infamant.
Mais voilà. Mais c'est peut-être maintenant, finalement, c'était relativement récent par rapport à l'histoire de l'Église, qu'on ait une vision aussi divine de Jésus. C'est vrai qu'aujourd'hui, personnellement, moi, dans la liturgie du culte, pourtant c'est des textes qui existent, dès qu'il y a une prière de Jésus, je la transforme en prière à Dieu au nom de Jésus. Parce qu'il me semble que, justement, on est sur une pente glissante de prier Jésus. On casse finalement un peu ce qui est, à mon avis, le plus grand des mystères, avec la croix, d'accord, mais c'est l'incarnation. Et souvent, on dit « Jésus est Dieu ». Jésus est Dieu, point. Ça, c'est pourtant quelque chose. Alors, on n'est pas forcé d'être dans le courant majoritaire de l'Église. Et hérétique, ça veut dire celui qui a choisi. Et c'est très bien de choisir ce qu'on croit, à mon avis. Mais là, il y a peut-être quelque chose, une hérésie que je ne désire pas avoir, finalement. C'est celle de dire Jésus est Dieu, point. Le courant majoritaire de l'Église, unanime pendant longtemps, enfin unanime pour le courant majoritaire, c'est un peu rigolo parce que, justement, c'est le propre du courant majoritaire, c'est de souhaiter être unanime pour éliminer les autres. Mais enfin bon, en tout cas, le courant majoritaire a dit celui qui dit que Jésus est Dieu, qu'il soit anathème. C'est-à-dire que, c'est pas, en tout cas, dans la sainte doctrine décidée par les hautes autorités des conciles de dire que Jésus est Dieu, point. La doctrine, c'est Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Donc ils tiennent justement ce mystère de l'incarnation et cette distance, cette complexité de la chose. Donc aujourd'hui, ça peut sembler finalement Ce serait, les chrétiens auraient tendance à dire, non, il n'a pas pu être crucifié, ou c'est presque un peu de la blague, si vous voulez. C'est-à-dire que bon, il savait très bien qu'il serait ressuscité après, et puis que de toute façon, machin. Pas du tout. Quand on regarde le récit qu'on va lire, on est à mille lieues de ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce cri incroyable, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, il y a cette distance entre le Fils et le Père à ce moment-là, ce doute finalement, ce doute, même si c'est un doute encore en relation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui est difficile à entendre pour les oreilles chrétiennes, peut-être un peu, qui sont laissées glisser doucement vers le Jésus est Dieu, point. Ce qui, à mon avis, est dangereux. Voilà. À mon avis, ça, il faut quand même... on a le droit tout à fait, si vous voulez, mais à ce moment-là, je crois que justement, si on est de cette hérésie-là, il faut vraiment l'avoir choisie, c'est-à-dire avoir pesé ce que ça veut dire que de renoncer finalement à une véritable humanité de Jésus. Enfin bon, peut-être il faudrait...
C'était le cas des... Si ça vous intéresse, le christianisme oriental, comme on en parle beaucoup, oui. Moi c'est une de mes passions, c'était le cas des églises coptes, des églises arméniennes et des églises syriennes ou syriaques, qu'on appelle jacobites, qui étaient monophysites, effectivement, et qui ont, dans les années 70, signé un certain nombre de textes. Alors, on les appelle maintenant anciennement monophysites, elles ont renoncé à leur monophysisme, donc actuellement elles sont chalcédoniennes, en fait, elles sont orthodoxes, au sens... C'est pour ça qu'on peut dire les coptes orthodoxes, quand on parle des coptes séparés de l'Église catholique, parce qu'il y a aussi des coptes catholiques, mais on peut dire les coptes orthodoxes. On ne pouvait pas le dire il y a 40 ans, parce qu'ils n'étaient pas orthodoxes, ils étaient monophysites. À l'inverse, il y a, bon, c'est une petite parenthèse, mais enfin, ça n'est pas inintéressant, il y a l'option, pour ne pas dire l'hérésie, inverse, qui est de mettre davantage l'accent sur l'humanité. Ça a été le cas de l'arianisme, qui n'existe plus, et surtout du nestorianisme. Et l'église chaldéenne, par exemple, dont on parle beaucoup, qui est l'église d'Irak, hein, l'église, 90% des chrétiens irakiens sont chaldéens, c'est une église anciennement nestorienne, mais qui ne l'est plus, qui est devenue comme les maronites, qui est maintenant catholique depuis de nombreux siècles. Mais il y a une frange minoritaire qui est encore nestorienne. Vous avez peut-être entendu parler de ça parce que les patriarches, ils ont un schisme, il y a deux patriarches, il y en a un aux États-Unis, etc. Et c'est ce qu'on appelle l'église assyrienne. Voilà. Alors ça fait rêver tous ces noms parce que ça nous plonge dans un Orient biblique. Donc cette église assyrienne, elle est nestorienne. Alors ils ont aussi signé des textes, ils disent qu'ils ne le sont pas, que c'était des mauvaises traductions, la communication, vous savez, au moment des conciles, était tellement lente pour arriver jusqu'en Perse, parce que c'est l'église perse, en fait, là. Hein. Voilà, mais c'est très passionnant, parce que là aussi, ce sont des marques de l'histoire. Et eux, donc, refusent d'appeler Marie mère de Dieu. Hein. Théotokos, ils l'appellent Christotokos, c'est-à-dire mère du Christ, en disant que la naissance de Jésus n'est qu'une naissance humaine et ne peut pas être autre chose. Oui. Bon, on est tous un peu nestoriens, tous un peu monophysites, un peu tout ça.
Alors c'est vrai que nous, on n'appelle vraiment pas Marie mère de Dieu. C'est quelque chose que je ne comprends même pas, mais cela dit, ouais, on a le droit d'avoir sa culture et son expression. Oui, moi, c'est vrai que c'est des choses qui me paraissent extrêmement baroques. Mais c'est vrai qu'il y a finalement ces deux tendances qui existent quand même bien, mais je vois même dans notre Église, de l'oratoire, il y a des gens qui sont tout à fait docètes et tout à fait nestoriens, c'est-à-dire des gens qui disent, voilà, qui ont une vision très très divine de Jésus, d'autres, mais finalement peut-être dans les images chrétiennes dont on parlait tout à l'heure, il y avait ces deux représentations de Jésus, un Jésus qui est, voilà, d'une nouveauté, d'une jeunesse un peu éternelle finalement, et puis un Jésus barbu, enseignant. Ben, on a en fait ces deux sensibilités dans nos paroissiens, des gens qui s'intéressent à Jésus comme un homme, qu'un témoin de Dieu, un témoin de foi, un théologien, un éthicien qui nous propose une façon d'être, une façon de vivre, une façon de prier, et puis d'autres qui le considère comme Jésus lui-même qui marche avec des sandales. Enfin, je rigole un peu en disant ça, mais c'est pas gentil, mais si vous voulez, c'est pour un peu dédramatiser la question. À partir du moment où nous intéressons de toute façon à Jésus-Christ pour chercher Dieu, à mon avis, on s'entend suffisamment bien ensemble pour, ben, c'est ce que nous faisons ce soir, pour lire ces textes et nous laisser emmener en chemin avec eux. Alors peut-être on peut se mettre à lire quand même. En tout cas, déjà peut-être la parabole des vignerons, Luc 20, 9 à 19. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui est volontaire pour cette lecture? Ah, on ne va pas toujours taper sur notre lectrice professionnelle. Ah voilà, on l'a trouvé.
Oui, allez-y peut-être, une question.
Allez-y pour la question, oui.
Il y a quelque chose qui me frappe dans ce que vous dites, à savoir que les chrétiens, même maintenant, auraient une difficulté à voir à la fois le divin et l'incarné dans le Christ. Enfin, c'est l'essentiel de la foi pour un chrétien, qu'il soit protestant ou catholique. Alors qu'on en soit... Vous dites qu'il y a bon, des gens qui ont cette difficulté, d'autres qui ont l'autre côté de la difficulté. Mmh. Mais enfin, s'il n'y a pas justement ce passage du Christ dans l'humain pour s'identifier à nous et d'une certaine façon nous ramener vers Dieu, ou nous faire comprendre qu'il a souffert comme nous souffrons, nous, parfois, dans la vie, ce qui est déjà, non pas une consolation, mais enfin, il doit arriver à l'état de chrétien, quand ils sont dans la dérédiction, dans des moments de souffrance les plus grands, se dire, ah, mais lui aussi a souffert ça. Enfin, je ne sais pas, c'est la phrase qu'on doit pouvoir prononcer tout de suite. Mais lui aussi, jusqu'à la croix, jusqu'à l'infamant, parce qu'il y a des gens qui non seulement souffrent, mais sont accusés à tort, sont jugés à tort, etc., etc. Enfin, je trouve que c'est l'essentiel de la foi. Or, en fait, vous êtes en train de dire qu'il y a relativement peu de chrétiens, qu'ils soient protestants ou catholiques, qui le pensent. Alors là, je suis effarée.
Non, mais au contraire, parce que ceux qui ne le penseraient pas, ce que vous dites, que le Christ a souffert comme nous avons souffert, c'est plutôt les docètes, comme le disait Jérôme, qui ne le croient pas. C'est-à-dire ceux qui insistent tellement sur la divinité de Jésus que finalement, cette souffrance, c'était un peu...
C'est un mélange. Évidemment, c'est difficile à comprendre, mais enfin,
oui,
c'est
non, mais voilà.
Voilà.
Pour ça, je ne sais pas, si vous voulez. Mais par contre, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que à partir du moment où, effectivement, on se dit, comme le disait Jérôme, qu'en Christ, il y a Dieu qui se révèle, Dieu qui se fait connaître, Dieu qui fait un effort pour nous ramener, pour nous diviniser, à ce moment-là, je crois que, de toute façon, c'est là l'essentiel. Ensuite, essayer d'expliquer, c'est-à-dire, finalement, c'est quand même assez terrible, ces questions-là, là où je crois que c'est quand même un peu secondaire, c'est que c'est comme de démonter un violon pour savoir comment ça marche, si vous voulez. On peut démonter un violon, ben une fois qu'il est démonté, d'abord il joue moins bien, deuxièmement, on n'a pas non forcément idée de ce que ça peut être qu'une
l'arme du violon,
voilà, ou que ça peut faire que d'entendre un morceau de violon de Bach. Or c'est bien ça la question. Il ne s'agit pas de savoir dans la tête de Jésus où était, ou dans la personne même de Jésus, où était Dieu, quelle était sa relation avec Dieu intime, profonde. C'est son problème, c'est son intimité dans un sens, vous comprenez? Alors ensuite, savoir exactement où s'arrêtait l'homme, où s'arrêtait Dieu, dans l'homme Jésus de Nazareth. Pouh, si vous voulez, on peut discuter là-dessus, c'est très intéressant.
Ça s'arrête tout au moins de voir à quel point, justement, il est proche de nous à ces moments-là, dans la souffrance.
Donc proche de nous la souffrance, là vous allez plutôt dans le sens de Jésus très homme, si vous voulez. Mais en même temps, on se rappelle
en
même temps.
Tout en sachant que c'est pas incompatible.
Et que ça marche en même temps, c'est-à-dire que plus il est homme, en fait, plus il est Dieu. Et plus il est Dieu, plus il est homme.
Oui, on va c'est un peu jouer sur le paradoxe quand même. C'est vrai, effectivement.
C'est paradoxal.
Je ne suis pas sûr que ça le soit tant que ça. Mais bon, cela dit, on peut en discuter. Et c'est ça que je veux dire, c'est là que c'est intéressant. Chrétiens ensemble, de toute façon, c'est la foi. Une foi, c'est une. Voilà, le Christ comme chemin vers le Père. Là, on est tous d'accord. À partir du moment où on est d'accord avec ça, chemin comment? Écoutez. Voilà, il faut être pragmatique. Où on est d'accord sur que Jésus-Christ est chemin vers le Père, on est suffisamment d'accord pour se reconnaître mutuellement comme chrétiens et puis cheminer ensemble, quand même. Voilà. Après, le reste, je dirais qu'on peut en discuter, c'est très intéressant, mais bon, il y a différentes sensibilités, différentes relations, différentes façons d'exprimer ça. Après, je dirais que, voilà, je crois aujourd'hui, on n'en est plus dans les anathèmes jetés à la face pour une formule, une doctrine, pour des formules, finalement, on est plus dans privilégier, à mon avis, quand même, ce Christ chemin vers le Père. À partir du moment où je dirais on est d'accord avec ça, bah écoutez, c'est déjà pas mal, je trouve. Oui. On peut se reconnaître comme chrétien quand on est d'accord avec ça, en tout cas. Peut-être pas chrétien pensant tout à fait la même chose, mais chrétien vraiment profondément uni par ça, je crois. Oui. Et puis, être en chemin, c'est être dans un chemin de conversion, un chemin d'évolution, pas simplement du cœur, mais aussi de la pensée. Donc, si nous pensons des bêtises sur Dieu, sur le Christ, etc., Dieu nous en garde, mais il nous en garde comme il le peut. En tout cas, il cherche à nous faire évoluer. Et à mon avis, c'est bien ce qui est en cause dans ce texte, justement, de se laisser toucher par par ce Fils qui nous est envoyé pour aller vers le Père. Oui. Je vous laisse la place pour lire le texte, alors. Super. C'est la première page.
Oui.
Jésus se mit à dire au peuple la parabole que voici. Un homme planta une vigne, il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage pour très longtemps. Le moment venu, il envoya son serviteur auprès des vignerons afin que ceux-ci lui remettent ce qui lui revenait du produit de la vigne. Mais les vignerons renvoyèrent le serviteur après l'avoir frappé sans rien lui donner. Le maître recommença en envoyant un autre serviteur. Celui-là aussi, après l'avoir frappé et insulté, ils le renvoyèrent sans rien lui donner. Le maître recommença en envoyant un troisième serviteur, mais après l'avoir blessé, ils le jetèrent dehors. Le maître de la vigne dit alors, « Que vais-je faire ? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être, le respecteront-ils ? » En le voyant, les vignerons firent entre eux ce raisonnement. « Voici l'héritier. » Tuons-le, pour que l'héritage soit à nous. Et après l'avoir jeté hors de la vigne, ils le tuèrent. Qu'est-ce que le maître de la vigne fera donc à ces gens? Il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Les auditeurs dirent à Jésus, « Jamais de la vie !» Mais lui, posant son regard sur eux, leur dit, « Que signifie donc ce qui est écrit ?» La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Tout homme qui tombera sur cette pierre sera brisé. Celui sur qui elle tombera, elle le pulvérisera. Les scribes et les chefs des prêtres cherchaient à mettre la main sur Jésus à l'instant même. Mais ils eurent peur du peuple. Ils avaient bien compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole.
Merci beaucoup. Donc c'est la traduction de la liturgie, en fait. C'est vrai qu'elle elle coule bien, cette traduction. Elle est assez littéraire, assez belle. Et bon, il y a quelques petits écarts avec le texte grec, mais finalement, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc, ça commence, Jésus qui parle en parabole. Alors, c'est vrai que on en parlait l'autre jour, je ne sais plus avec qui, on disait, mais en fait, c'était hier soir, les gens, on est souvent déçus que Jésus ne soit pas plus clair. C'est vrai qu'il aurait pu sortir toute une théologie, toute une christologie, en disant, ben écoutez, si ça vous intéresse, voilà ce qu'il faut penser sur moi et le Père en relation. En fait, il parle en parabole, et en parabole, c'est justement pour nous faire réfléchir, pour nous faire cheminer. Et les disciples s'en plaignent, hein, on le voit à la fin de l'évangile selon Jean, ils disent, mais enfin, quand est-ce que tu arrêteras de parler en parabole? Et ils sont reconnaissants quand enfin il leur dit quelque chose qui leur semble plus clair, mais qui ne l'est pas forcément autant. Alors, cette parabole de la vigne, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, car il y a déjà d'autres textes, hein, c'est une citation, alors c'est très connu, le chant de la vigne dans Ésaïe 5, c'est une très très belle parabole que propose Ésaïe, un peu dans le même contexte finalement, c'est-à-dire que la vigne, telle que le dit Ésaïe dans les 7 premiers versets, ça représente Israël que Dieu a planté. Alors il leur a donné, il a planté sur un coteau fertile, avec le meilleur plan, il a ôté les pierres, il a mis autour une clôture pour bien protéger, une tour qui permet de voir les ennemis de loin, surveiller la vigne, et puis un pressoir pour, après la récolte, garder le jus du raisin. Et puis il dit, ben, en fait, je suis déçu parce que je pensais que ma vigne produirait de bons raisins. Et puis en fait, rien. Il n'y a que du raisin infect. Alors, Ésaïe propose, voilà, il y a Dieu qui parle, il dit, voilà ce que je vais faire de ma vigne, je vais arracher la haie, et alors les animaux sauvages vont venir la brouter, et puis elle sera écrasée, foulée aux pieds, et puis voilà, il y a des gens qui... Elle arrêtera d'être cultivée, et puis donc il n'y aura plus de pluie non plus, parce que je vais arrêter la pluie dessus, et puis voilà, ça sera fini. Il y a aussi le psaume 80, je crois que c'était 79 en fait, dans la numérotation catholique, je ne sais pas, et grecque. Numérotation hébraïque, c'est 80. C'est la même chose. Le psalmiste reprend cette parabole de la vigne. Et là encore, c'est plutôt le psalmiste qui fait un appel, une prière à Dieu en disant « Nous sommes comme une vigne qui est... » Nous sommes dans la situation d'Ésaïe 5, finalement. Nous sommes comme une vigne qui n'a plus de clôture, qui est arrachée, qui est broutée par les bêtes des champs, par le sanglier qui laboure la vigne avec son nez. Et donc, il y a un appel à Dieu pour qu'enfin, il se remette à reprotéger cette vigne et puis qu'il puisse revivre, que les gens puissent, que Israël puisse revivre et que l'homme puisse de nouveau trouver la vie. Alors, par rapport à ces paraboles donc, qui étaient bien connues à l'époque de Jésus, bien sûr, hein, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui est proposé ici, finalement? Moi, je dirais déjà, si vous voulez, la patience de Dieu, si Dieu, c'est le maître de la vigne, car finalement, c'est pas toujours si clair hein, dans les paraboles. Il y a souvent un maître, un roi, qui plante, fait quelque chose, qui plante une vigne ou qui donne des talents, des mines à gérer et qui s'en va. Et c'est souvent Dieu, bien sûr, hein, ce maître de la vigne ou cet homme qui a planté la vigne. Mais quand il nous dit c'est un homme qui a planté la vigne, ben, peut-être ça nous invite aussi à nous mettre à la place de cette... être à suivre les pas de Dieu, quoi. Mais enfin bon, c'est quand même plutôt Dieu, c'est le maître de la vigne dans la première lecture qu'on peut faire. À ce moment-là, il y a une patience de Dieu quand même. Vous voyez, par rapport à Ésaïe, par rapport au psaume, il y a cette patience de Dieu qu'on voit des premiers serviteurs qui appellent, et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois, et puis encore maintenant son fils. Donc il y a vraiment cette patience de Dieu qui, contrairement à Ésaïe, il ne dit pas ben, « maintenant j'en ai marre en fait ». Il persévère et même il redouble de pédagogie, de grâce, de prévenance au fur et à mesure que les hommes s'endurcissent contre Dieu finalement. Donc il y a là quelque chose de la grâce qui se dit, ou comme Paul le dit, hein, quand le péché abonde, la grâce surabonde, comme il dit dans la lettre aux Romains.
Alors, en effet, la référence à Ésaïe est évidente. Ce qui est étonnant, c'est que chez le prophète Ésaïe ou Ésaïe, la vigne représente Israël. Et vous vous souvenez, le prophète dit, il fait parler Dieu, et Dieu dit « J'en attendais des raisins et je n'obtins que du verjus, ou je n'obtins que voilà, de la piquette. Bon. » On peut traduire comme on veut. Alors ici, l'image de la vigne est traitée de manière un peu plus affinée, c'est-à-dire qu'en fait, ce que Dieu attend, puisque Dieu est le maître et il part pour très longtemps, c'est étonnant parce que cette parabole, on la trouve dans les trois synoptiques, chez Matthieu, Marc et Luc. Et le traitement chez Luc est beaucoup plus littéraire. Il y a une tension dramatique beaucoup plus forte, puisque chez Matthieu et Marc, il tue tout le monde, les, les, les vignerons, ils ne font pas dans le détail, ils tuent les serviteurs, ils lapident, etc. Ici, c'est uniquement le fils à la fin.
Hein. Oui.
Donc il y a vraiment une progression. Et donc vous voyez bien que la dimension d'annonce christologique, où Jésus dit quelque chose de son propre destin et de l'histoire du salut, depuis Israël jusqu'à l'événement de la Pâque qui approche, est beaucoup plus clair chez Luc, effectivement. Simultanément, chez Matthieu et Marc, cette parabole ne s'adresse qu'aux autorités religieuses, hein, aux chefs des prêtres et aux scribes. Alors qu'ici, ça s'adresse au peuple, au laos, hein, le fameux mot qui a donné laïque d'ailleurs, ça s'adresse au laos et, de manière plus indirecte, aux autorités religieuses qui sont là, dont l'oreille traîne, etc. Vous voyez que le contexte est beaucoup plus... plus nourri, plus riche, plus romanesque presque, avec une plus grande tension dramatique. Et ça, c'est typique de Luc. Hein. La langue de Luc est plus belle aussi quand on la lit en grec, etc. Donc c'est un texte très travaillé. Et nous sommes au chapitre 20, c'est-à-dire que ce que j'évoquais tout à l'heure, la longue montée vers Jérusalem. Jésus, chez Luc, ne va à Jérusalem qu'une fois, parce qu'il sait que c'est la ville qui tue les prophètes et que... Il faut mourir à Jérusalem, il fallait que le Christ souffrît, etc. Vous savez que chez Saint Luc, il y a vraiment une vision très... Le Christ est à la fois suprêmement libre et en même temps, il accomplit et il a la conscience d'accomplir. Donc il y a cette montée à Jérusalem, alors que chez Saint Jean, il va sans cesse à Jérusalem, enfin au moins trois fois. Donc il y a cette longue montée, Jésus durcit son visage au chapitre 9, il se tourne résolument, il prend... résolument la route de Jérusalem. Et là, nous sommes au chapitre 20, donc à un chapitre de la Passion, du dernier repas et de la Passion. Jésus est au temple, il a choisi, avec un art consommé du relief qu'il veut donner à son enseignement, il est au temple, qui est le lieu de la révélation et de la prière, donc ce n'est pas un endroit anodin, et il vient d'être interrogé sur la source de son autorité. Les prêtres, les Kohen, les Kohanim, lui demandent « Mais au nom de qui tu parles? Quelle est ton autorité? C'est très bien, tu dis de belles choses, peut-être, mais tu as le peuple après toi, et ils craignent le peuple. Mais d'où vient ton autorité ?» Et c'est à ce moment-là, précisément, que Jésus raconte cette parabole. Donc il faut bien avoir en tête qu'on est à un moment crucial. Hein,
c'est le cas de le dire.
Crucial, qui vient du mot croix, hein, crux. Donc on est vraiment... à un moment juste avant le dernier repas qui va être le lieu où Jésus, pour non plus pour le peuple, pour le Laos, mais pour ses proches, pour ses amis, va donner, et là encore pas de manière théologique en manipulant des concepts, mais par le pain et le vin, va donner la signification ultime de ce qu'il va vivre. Par anticipation, il donne le sens de la croix et de la Pâque, en montrant qu'il se donne lui-même, qu'il donne son corps, qu'il donne sa vie. Le sang, c'est la vie, vous savez, pour les Juifs. Hein, c'est vraiment le sang, d'où la viande cachère, etc. Le sang, c'est vraiment la vie. Il donne son corps, il donne sa vie. Et juste avant donc cette révélation, qui n'est que pour le cercle rapproché des amis, il y a cette parabole qui est beaucoup plus grand public, si on peut dire. Et effectivement, Jésus, dans ces moments-là, parle toujours par parabole, avec des images, parce que les grands symboles, les grandes images, finalement, travaillent notre imaginaire, travaillent notre esprit beaucoup plus intensément et beaucoup plus profondément que des déductions rationnelles, bien sûr. Et puis, ça n'est pas son registre, de toute façon. Donc, il réinvestit une image très ancienne. Vous voyez que c'est une parabole très soignée. Et par cette image, il va donner le sens de, finalement, l'histoire d'Israël, à savoir cette vigne, ce maître qui part très longtemps, et puis des serviteurs qui viennent... pour chercher, non plus comme chez Isaïe où c'était la vigne qui devait donner des bons fruits. Ici, ils viennent simplement chercher ce qui lui revenait du produit de la vigne. Le maître n'est pas un tyran Il ne veut pas avoir tout le produit. Il a donné en location, en fermage. Donc, il ne vient que pour prendre ce qui lui revient. Donc, vous voyez, c'est pas ça n'est pas de la prévarication ou de la concussion ou que sais-je. Ça n'est pas un abus de pouvoir de la part du maître. Il vient juste, alors que chez Isaïe, c'était un peu plus grossier. C'est-à-dire que bon, le maître veut que sa vigne donne du bon fruit. Bon. Mais ici, c'est beaucoup plus subtil. Il y a des intermédiaires, il y a des médiations. Il y a la vigne qui donne du fruit, les fermiers prélèvent ce qui leur est dû, et le maître entend, au bout d'un certain temps, au bout d'une certaine patience, il entend quand même avoir aussi ce qui lui revient. Et je pense que la portée spirituelle pour nous, elle est très forte, à savoir que nous aussi, évidemment, nous sommes un peu les fermiers, nous cultivons ce qui n'est pas à nous, qui nous a été donné, que Dieu nous a donné. Et à un moment dans nos vies, à un moment que Dieu seul connaît, nous devons peut-être réfléchir à cette manière de rendre du loyer. Et c'est précisément là, alors que ça ne semble pas d'ailleurs exorbitant, c'est précisément là que les vignerons se rebellent, qu'ils se raidissent et qu'ils ne veulent pas entendre les serviteurs que le maître envoie.
Oui, mais là je suis désolé, mais en fait, dans le texte, il n'y a pas marqué que c'était le fruit qu'il leur devait, en fait. Parce qu'en fait, ça, c'est la...
Ce qui lui revenait.
Oui, mais ça, c'est dans la jolie traduction qui est faite. Et en fait, tu connais mieux le grec que moi, en fait, parce que moi, je balbutie, alors que toi, tu le lis en grec courant. Mais en fait, il lui demande simplement, le maître envoie pour qu'il lui donne, en fait, du fruit de la vigne. Et donc, en fait, c'est un appel à donner par grâce, finalement. Et ça, je crois que c'est quand même assez beau, justement. C'est-à-dire que c'est eux qui prennent ça, finalement, comme c'est traduit, c'est-à-dire comme quelqu'un qui dit « Mais en fait, je vous ai donné ce machin, maintenant, il faut me payer. »
Mais le carpos, c'est le revenu. Hein. C'est le fruit.
C'est le fruit, oui.
Mais au sens où c'est le fruit d'un capital aussi. Ça peut être le revenu. C'est... Oui.
Ben, c'est le fruit.
C'est le fruit. Disons, je pense que si on regardait les textes de l'époque, carpos peut avoir ce sens...
Enfin, en tout cas, ce n'est pas marqué explicitement que c'était un dû. C'est-à-dire qu'il y a marqué qu'il lui demande de donner, en fait. Mm-hmm. Il n'y a pas marqué de rendre ou de...
C'est pourtant...
Quoi ?
C'est ce qui lui revient.
C'est le fruit. Mais oui, mais je crois que justement, si vous voulez, c'est là aussi, je crois que c'est une théologie de la grâce, c'est-à-dire où Dieu... Vous voyez, je crois qu'il y a des gens, par exemple, qui se sont entendus dire par leurs parents... Après tout ce que j'ai fait pour lui, il me fait ça. Et ça, c'est vrai que, si vous voulez, il y a une sorte de dette qui pèse, et que après tout ce que j'ai fait pour lui, il faut bien qu'il me fasse quelque chose. C'est quelque chose, en fait, qui est extrêmement lourd. C'est-à-dire qu'on est dans une logique...
De celui qui le dit, pas de celui...
De celui qui le reçoit, oui. C'est-à-dire que, du coup, on est dans un système de dette, voilà. Et je ne crois pas qu'avec Dieu, on soit dans une logique de dette. Tu vois ce que je veux dire ? Il nous a donné la vie. Je veux dire, on lui doit rien. Il nous a donné la vie par plaisir. C'était son projet. Il l'a fait de bon cœur. Moi, quelqu'un m'offre des chocolats. Je veux dire, mais je le prends au premier degré. Ça lui fait plaisir de me donner du chocolat. Je reçois le chocolat. Ça me fait plaisir de le recevoir et de le manger. Je ne dois rien.
Mais même un petit peu. Une gratitude.
La gratitude, oui.
C'est l'action de grâce. Voilà. Il y a grâce, voilà. Et action de grâce.
Tout à fait. Ah, c'est la gratitude. Mais du coup, il n'y a pas de dette. On est dans le don et la gratitude.
Mais un loyer, ce n'est pas une dette. Enfin, c'est... Oui. Oui.
Je crois que Dieu nous a donné la vie de bon cœur. Il nous l'a donnée. Et donc, je crois qu'on n'est pas dans l'idée de rendre quelque chose à Dieu. On est dans l'idée que, voilà, on a reçu de bonnes grâces.
On remercie.
C'est dans la gratitude. Voilà.
C'est notre foi, en fait. Qui est...
Et ça, je crois...
Dieu n'a besoin de rien. Il n'a besoin que de notre foi. Il, tout
ah, nos...
Oui, ça lui donne de la joie, ça lui donne de la joie.
La clé quand même, parce que de toute façon, une parabole est toujours, c'est jamais terme à terme. Donc,
mais
la clé serait ce mot-ci, excedeto, qui est un mot un peu rare. C'est-à-dire, là, on aurait les termes même du contrat.
Ah, oui,
il faudrait voir si c'est le mot habituel pour une location, pour un fermage, etc.
Oui, je crois que ça, ça, c'est un peu le fermage. Enfin bon, en tout cas, moi j'ai l'impression, si vous voulez, que là, en tout cas, il y a ambiguïté, et que s'ils avaient dit, plutôt que de taper sur le serviteur, ils avaient dit, bah en fait, on a tout mangé, on est désolé, on est hyper content, mais en fait, là, je veux dire, on s'est quand même bien régalé, et vous direz à votre maître que, bah en fait, on est vraiment reconnaissant, mais qu'on n'a pas, voilà, on a tout bouffé. Ça va. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai l'impression, au verset 13, le vrai problème, ce n'est pas tellement qu'il donne finalement du fruit. C'est « J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être le respecteront-ils » Donc la vraie question, c'est la question donc, du respect, en fait. Et que le vrai problème, c'est d'avoir frappé et insulté le serviteur. Ce n'est pas tellement finalement d'avoir donné de ne pas avoir donné de fruit. Mais si, quand même, il y a marqué sans rien lui donner. Mais enfin, au verset 13... Vraiment, le fond du problème, c'est un problème de respect. C'est un problème de foi, finalement. Alors, cela dit, je vais dire maintenant le contraire de ce que je viens de dire, si vous voulez, c'est que quand même, le fruit dans ce contexte, et en particulier le fruit de la vigne, ça évoque un peu la part de vie éternelle qui est en chacun de nous, si vous voulez. J'ai l'impression. Et donc, quand même, quand on parle de vendange, de moisson, de vannage, et puis de fabriquer de la farine et du pain avec. Quand on parle de vendange, de pressoir, et puis de vinification, ça évoque dans la Bible assez souvent le processus de jugement de Dieu, et puis de vie éternelle, c'est-à-dire qu'il garde le meilleur de chacun, le récolte, il y a cette transformation un peu magique qui peut être la fermentation du pain ou que peut être la fermentation du vin, mais là se dit quelque chose du fait que Dieu nous garde pour la vie éternelle. Donc, produire du fruit et le confier à Dieu, accepter qu'il le prenne et le garde, c'est pas pour que Dieu le mange comme s'il avait besoin de quelque chose. En fait, ce que Dieu propose, à mon avis, là, il s'agit de garder pour la vie éternelle, d'engranger. De le garder, de le bonifier par la fermentation, que notre être profond, ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous, ben, puisse devenir quelque chose de vivifiant, qui donne joie, qui donne vie, qui donne vie éternelle. Voilà. Et je crois que c'est ça qui est en cause. Donc celui qui refuse que Dieu vienne le vendanger et prenne le fruit, c'est pas comme une, voyez, la part de Dieu et puis la part de l'homme, et puis finalement on nous demande de nous... d'accepter de donner une part pour Dieu, c'est pas ça, c'est un service que Dieu nous donne encore, de récolter cette part pour la rendre extraordinairement plus vivante et plus belle, et la garder pour l'éternité. Vous voyez ce que je veux dire un peu non ?
Si, si, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit la dernière fois sur la grâce aussi, mais là je m'étais montré plus calviniste.
Ah oui.
Mais c'est toujours l'idée. Le risque toujours, c'est de faire de Dieu l'adversaire de l'homme.
Oui.
Et de penser qu'au fond, plus l'homme retranche ce qu'il y a d'humain en lui, et plus ça va plaire à Dieu, comme si c'était effectivement, alors que Dieu et l'homme marchent ensemble d'une certaine manière. Et effectivement, si, pour ça, l'image de renoncer un petit peu en faveur du maître... Ça n'est pas forcément... Enfin, moi, je le prends dans un sens très spirituel, au fond, c'est-à-dire que ça n'est pas au sens païen d'un sacrifice où je me prive d'une part de moi-même pour que la divinité soit plus, davantage la divinité.
Oui, tout à fait.
Mais au contraire, c'est-à-dire... À partir du moment où l'homme et Dieu ne sont pas adversaires... où Dieu n'est pas l'adversaire de l'homme, au fond... la dernière fois c'était à propos de la liberté, effectivement. Si Si on renonce à son libre propos, ça n'est pas forcément au sens sacrificiel. Enfin, c'est ça qui est assez compliqué, mais il faudra qu'on en reparle.
Non, c'est dans la. Oui, mais je crois qu'en fait, on est d'accord. C'est-à-dire, c'est dans la confiance, à ce moment-là, on entre dans une communion, en fait. Mais les fruits, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'en le donnant au Père, ils n'ont pas à y renoncer pour leur propre bénéfice. C'est un peu nuptial, voilà. Ouais. C'est-à-dire que quand il le confie au Père, ce fruit, c'est pour le bénéfice même d'eux-mêmes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, ils entrent dans une communion. Oui, là, c'est ça. Ouais. Alors, ce qui est... Oui.
Le sacrifice, est-ce que c'est pour vous une abnégation face à la divinité ou c'est plutôt une sorte d'osmose? M'a donné une grâce, je te redonne une grâce.
J'ai hésité à dire le mot parce que je le prenais au sens très étroit et au sens trivial, volontairement. C'est-à-dire, quand on disait autrefois, il faut faire des petits sacrifices. Voilà.
Sacrifice, pour moi, ça apparaît toujours dans cette part de la vigne. Je ne suis pas sûr que ça dépossède qui que ce soit.
Non. Oui, non, je crois que c'est ça. Voilà.
Tout à fait.
C'est comme quand on fait preuve de gratitude envers quelqu'un, on ne se prive pas. On se prive de rien soi-même. Les deux se réjouissent plus, finalement, quand une gratitude peut s'exprimer. Je crois que c'est plutôt de cet ordre. Ouais. Alors, ce qui est très étonnant, et ce qui va à rebrousse-poil, finalement, d'un certain nombre de théologies chrétiennes, néanmoins, c'est le « peut-être le respecteront-ils ». Alors là encore, Luc, il va assez doucement, parce que les autres ont « j'enverrai mon fils, ils le respecteront ». C'est-à-dire que définitivement, selon Matthieu et Marc, le projet de Dieu, c'est que le Christ soit respecté, que l'humanité se convertisse et que Jésus finisse, vieux et rassasié de jour, à continuer à dire des paraboles sur la barque, et finisse en mourant de vieillesse peut-être quelque part. Je crois que c'était, si vous voulez, on peut dire que selon Jésus, c'était le projet de Dieu. Voilà. Cela dit, Luc est un peu le spécialiste de la liberté de l'homme. C'est-à-dire que c'est l'évangile où on insiste plus sur la conversion de l'homme, sur le choix de l'homme, l'orientation qu'il choisit de prendre, soit en bien, soit en mal. Et donc c'est ainsi que, par exemple, pour Judas, eh bien, le diable s'empare, rentre dans le cœur de Judas, dans Luc. Donc, il y a comme une déconversion de Judas qui, tout d'un coup, choisit de se tourner vers le mal. Alors que ici, voilà, c'est pour ça que là, il y a le « peut-être le respecteront-ils » dans l'évangile selon Luc, comme une alternative qui est placée devant nous en disant, finalement, est-ce que vous choisissez de vous convertir à Dieu ou de vous convertir à... contre Dieu, finalement. Mais ça, la question reste ouverte. Et quand la question est comme ça posée, c'est à nous que cette question est posée, ou c'est à nous que Jésus pose cette question, s'il l'a dit comme ça, au peuple, en fait. Peut-être le respecteront-ils, mais le projet de Dieu reste quand même qu'il le respecte.
Bien sûr.
Oui.
Et c'est vrai que c'est très beau. Dans l'éventuelle possibilité d'un dénouement heureux, il y a quelque chose de l'optimisme de Dieu, d'une certaine manière. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il n'y a pas de déterminisme dans l'évangile de Luc. C'est l'évangile de l'accomplissement, mais l'accomplissement n'est jamais le déterminisme. C'est-à-dire que ça n'est pas mécanique, vous savez, comme la vision de la physique... positiviste au 19e siècle, où on pensait qu'effectivement on pouvait déduire tout mouvement à partir d'un mouvement initial, le mécanisme newtonien ou cartésien. On voit bien ici qu'on est dans l'accomplissement, mais on n'est pas dans le déroulement d'une tragédie grecque. La liberté, elle est exaltée d'une certaine manière. L'accomplissement, il se fait dans une trame qui est tissée de textes. Ce sont les textes de l'Ancienne Alliance qui sont autant de bifurcations, et je défie quiconque de pouvoir réduire l'Ancien Testament à une espèce de récit lisse et qui convergerait de manière absolue vers la théologie de la rédemption de saint Anselme. Il y a vraiment l'accomplissement résonne sur un terreau qui est d'une telle richesse que tout est possible à chaque instant et Jésus est pleinement homme de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, voilà, comme toute vie est un peu un roman, plein de romans possibles, et il y a des virtualités narratives à chaque instant de la vie de Jésus qui ne sont pas empruntées, mais qui auraient pu être, voilà. Et de fait, c'est après les événements de Pâques qu'on peut relire la vie de Jésus, en faire un évangile, un récit, mais Luc a cette santé spirituelle, j'ai envie de dire, de montrer que bien que les choses s'accomplissent, on est dans une histoire d'homme, une histoire de liberté. Mmh. Et même dans cette parabole, au fond, peut-être le respecteront-ils. Voilà, tout n'est pas écrit d'avance, hein, ce serait le pire des paganismes de croire que, comme Jacques le Fataliste, vous savez, tout est écrit là-haut. Eh bien non, précisément, rien n'est écrit. Hein. C'est troublant, rien n'est écrit. Et même d'ailleurs Calvin, enfin, parce que ça c'est une des manières dont on réduit la prédestination. La prédestination c'est bien autre chose que de croire que tout est écrit.
Oui, en cela dit, la prédestination de Calvin, moi j'y crois pas non plus, mais cela dit, c'est vrai que là, je sais pas, il y avait quelque chose où il avait un peu disjoncté, en fait, je crois, sur cette question-là. D'ailleurs, se basant sur saint Augustin, hein, c'est pas lui qui l'invente non plus, mais c'est vrai que là, je suivrai pas Calvin là-dessus. Je crois qu'on est prédestinés tous à être aimés par Dieu et dans une certaine mesure, sauvés par lui. Ensuite, je crois pas qu'il y ait comme ça des gens prédestinés à la vie éternelle et d'autres prédestinés aux peines éternelles. C'est absolument épouvantable, cette histoire. Alors ici, je crois que voilà, il y a un débat entre eux. Ça, je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est pas simplement une décision individuelle. Il y a un débat entre eux, et finalement, ils choisissent. Là, le verset 14. Voici l'héritier, tuons-le pour que l'héritage soit à nous. Et donc, en fait, ils n'ont pas encore percuté que Dieu n'est pas ennemi de l'homme finalement. Il y a l'idée de, ils n'ont pas encore compris que Dieu se donnait finalement à l'homme. Et donc, dans un certain sens, là, l'humanité, et donc c'est collectif, je trouve que ça, c'est quand même intéressant, ils font un remake du péché d'Adam et Ève. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, on veut être Dieu à la place de Dieu. Et ce qui est d'autant plus curieux, si vous voulez, c'est que justement, dans le Fils, en Christ, on nous dit que nous sommes héritiers. C'est magnifique. Donc, ils essayent d'arracher le fait d'être héritier, parce que simplement, ils n'ont pas percuté qu'ils l'étaient déjà. Donc, en tuant le Fils, c'est eux-mêmes qui tuent, finalement. Puisque... Oui, puisque c'est le... Ils tuent le Fils en eux-mêmes, en se faisant ennemi du Père. Je crois que là, il y a quelque chose, du coup, qui est assez profond, finalement, et qui nous dit, qui nous parle de notre relation à Dieu. On n'a absolument rien à craindre de Dieu. Tout est déjà donné, finalement. La question, eh bien, c'est d'être dans ce respect du Fils, the Fils, qui est le Christ, mais qui, en même temps, nous dit et fait de nous des fils et des filles. Donc, en tuant le Fils, on tue le Fils en nous-mêmes. Et donc, c'est là qu'est la catastrophe, je pense. Voilà. Et quand Dieu peut passer par-dessus ça et nous sauver quand même, finalement, continuer à nous aimer, je crois que là, il y a quelque chose qui se dit justement d'immense dans l'amour du Père et qui est manifesté, je crois, justement dans le fait que Jésus de Nazareth, vraiment l'homme, accepte de durcir sa face, de mobiliser son énergie, sa foi, pour y aller quand même, et dire que, même pécheur, nous valons le coup, finalement. Et là, il manifeste vraiment, je crois, qui est Dieu. qui est Dieu, et que même parmi les plus pécheurs, parmi les pécheurs, eh bien, nous sommes encore au bénéfice de ce Dieu qui nous aime. Alors c'est ce qui est dit ainsi, je crois, en Christ, hein. Particulièrement, on le voit un peu plus loin, quand sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc là, c'est un peu la réponse, finalement, à cet événement-là où il tue le Fils. Le fait de tuer le Fils ne les fait pas être déshérités pour autant, finalement. Et ça, c'est quand même incroyable, je crois. C'est quand même incroyable. Et donc, je crois que oui, on est sauvés dans un sens malgré la croix. C'est-à-dire que bien que nous, collectivement, tuons le Fils, c'est un peu dire, parce qu'on n'était pas à Jérusalem en train de crier Barabbas non plus, hein, donc c'est un peu symbolique. Mais même si nous tuons le Christ en nous-mêmes, finalement, si nous rejetons l'Esprit Saint, si nous refusons Dieu, Dieu nous considère toujours comme son Fils bien-aimé, sa fille bien-aimée, et le Christ continue à prier le Père pour nous. Et voilà, donc la suite de la parabole, il faut la relire finalement à la lumière, je crois, de l'épisode du Christ en croix, qui continue à prier pour nous qui le crucifions, je crois.
Alors, bien sûr, la conclusion de la parabole a été lue à travers l'histoire. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais on a cherché à trouver des équivalents, évidemment. Et puis, évidemment, il y a des lectures un peu anti-judaïques qui ont été faites, hein, puisque c'est facile.
On donnera la vigne à Dieu.
Voilà. Tuons-le pour que l'héritage soit à nous. Et puis ensuite, après avoir jeté hors de la vigne, ils le tuèrent. Il vient là. Le maître viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Et là, d'ailleurs, le Laos, le peuple, dit « jamais de la vie ». La traduction est un peu abrupte, mais le sens, c'est pas du tout c'est « jamais de la vie ». Un peu comme lorsque Jésus dit à Pierre « tu me trahiras », il dira « jamais de la vie ». C'est plutôt, vous savez, comme dans les salles de cinéma, autrefois, on manifestait son enthousiasme pour le héros, etc. Là, voilà. Non, tu ne nous connais pas. Non, parce qu'ils ont compris de quoi ils retournaient. Donc, ce n'est pas du tout méprisant. Hein. Ce n'est pas un jamais de la vie. Voilà.
Mégonaut.
Oui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, ici... Enfin, Luc écrit... à un moment où l'Église, la première Église, dans les années 60-70, connaît une première vague de persécution et Jérusalem probablement vient d'être détruite. Et donc, on va le retrouver d'ailleurs avec la page qui suit, lorsque Jésus demande aux femmes de Jérusalem, aux pleureuses, de pleurer sur Jérusalem. En fait, au moment où le texte est écrit, au moment où Luc écrit, les événements ont eu lieu. Hein. Donc, vous direz, c'est peut-être une prophétie un peu facile, mais enfin, en tout cas, si Luc prend la liberté de le mettre dans la bouche de Jésus, c'est que probablement Jésus s'est exprimé là-dessus, sur le destin de Jérusalem. Alors, peut-être pas de manière... pas comme Madame Soleil, mais en tout cas... En montrant à quel type de contradiction se heurtait l'orgueil d'une grande ville comme ça à cette époque-là. Donc, il y a quand même ce point d'interrogation sur la manière dont il faut comprendre la vigne sera donnée à d'autres, etc. Je ne sais pas comment tu interprètes d'ailleurs.
J'ai pas très bien compris la réponse des auditeurs parce qu'elle me semble importante.
Le jamais de la vie.
Vous avez dit que ça ne voulait pas dire exactement ça, ce qui, à mon avis, serait quand même beaucoup plus juste comme réponse. Mais quelle est leur réponse? C'est ça.
Ils se sont identifiés, finalement, ils ont compris, ils ont fait le labeur interprétatif que Jésus attend d'eux, puisque Jésus, s'il utilise ce langage parabolique, c'est qu'il sait très bien que l'auditoire va entrer dans l'histoire et va comprendre. Et l'auditoire finit par réagir. Donc ils ont compris qu'ils étaient la vigne, qu'ils étaient ceux qui souhaitent être des héritiers, et donc ils réagissent doublement, à mon avis, à savoir qu'ils refusent l'idée de l'issue fatale et du meurtre, et ils refusent l'idée que le maître vienne et donne la vigne à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est une réaction. Alors, peut-être ont-ils compris aussi que Jésus s'adresse davantage aux dirigeants, que les vignerons sont les dirigeants du peuple, les chefs des prêtres, comme on dit, les scribes, les docteurs de la loi, éventuellement les anciens du peuple, les fameux anciens, les notables du peuple, et puis les notables chez les pharisiens, puisqu'en gros c'est ça, hein, la gentry que Jésus a face à lui, et Luc décline d'ailleurs sociologiquement, hein, les différentes couches, mais en gros ce sont, voilà, il y a le lobby du temple, il y a les réseaux pharisiens, etc. Et l'hostilité que Jésus suscite chez ces personnes-là, d'ailleurs, n'est pas sans poser des questions. Et il est probable que l'auditoire a compris que Jésus visait les dignitaires et les chefs du peuple. Mais vous voyez, en annonçant une catastrophe pour Jérusalem et pour Israël, il y a une espèce de solidarité, j'ai lu ça chez un exégète, entre finalement le peuple et ses dirigeants. C'est en période de crise, c'est toujours comme ça. On ne se désolidarise pas de ses dirigeants. Et donc, voilà, il y a une espèce de cri du cœur qui englobe finalement toutes les composantes et toutes les couches de la société israélite de l'époque. Et on voit bien... Ça, c'est la finale. Les scribes et les chefs des prêtres cherchaient à mettre la main sur Jésus, mais ils eurent peur du peuple. Hein. Parce que, évidemment, le peuple entend la menace, mais l'entend comme un conseil affectueux et non pas comme un oracle de malheur, alors que les autorités religieuses l'entendent comme une marque d'hostilité définitive entre Jésus et eux.
Alors moi, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'en fait, ils ont raison de dire ça. Hein, parce qu'en fait, souvent, la parabole, c'est que le mécanisme d'une parabole, c'est qu'on conduit les gens, finalement, la foule, les personnes, au bout d'une logique. Et ils sont obligés, finalement, de dire au bout quelque chose qui est vrai. Parce que sinon, ça ne marche pas, le ressort de la parabole. Donc quand ils disent « mais jamais de la vie, ça ne peut pas arriver », en fait, ils confessent réellement un Dieu qui est fidèle à son alliance. Et ça, c'est... Et son alliance, malgré tout. Et c'est vrai que le fond, quand même... Oui, non, en tout cas, de certains courants dans le judaïsme, c'est-à-dire dans le courant de l'alliance inconditionnelle faite avec Abraham, il n'y a pas marqué « Abraham, si tu es assez sage, je te garderai la bénédiction ». Non, dans Abraham, l'histoire d'Abraham, l'alliance avec Abraham, il y a marqué...
Inconditionnelle.
Alliance inconditionnelle. Tu es béni, tu seras bénédiction pour un peuple nombreux et pour toutes les nations à travers toi. Par contre, dans le Deutéronome, là, effectivement, il y a une alliance conditionnelle où on dit, voilà, on place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, parce que si tu choisis le mauvais chemin, les mauvais attachements, finalement... Tu seras à ce moment-là dans un chemin de mort et je te maudirai, tu seras retranché. Comment on peut tenir les deux en même temps? Moi, à mon avis, fondamentalement, le Christ est du côté d'une alliance inconditionnelle, pas seulement avec un peuple, le peuple hébreu, mais d'ailleurs, je crois, dans le prolongement de la promesse faite à Abraham, dans une alliance avec toute personne de l'humanité. En tout cas, c'est ce qui était attendu, en particulier dans les prophètes, les grands prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie. Et donc, bref, je crois qu'ils ont bien compris, quand ils confessent ça, de l'alliance inconditionnelle. La promesse faite à Abraham, Dieu y a engagé sa parole, il sera fidèle à sa parole, même unilatéralement. Ensuite, moi, avec le Deutéronome, je suis bien d'accord, quand on fait n'importe quoi, quand on se comporte comme un sauvage, eh bien, on se fait du mal, et on fait du mal autour de soi. Donc, nos actes sont source de mort. Et de manque de foi, et d'infidélité, et de rupture, de bonnes alliances avec Dieu, avec nos proches, etc. Donc, quand ils disent ça, ils disent vrai. Dieu sera fidèle. il gardera. Et à mon avis, c'est ce que manifeste le Christ en croix quand il prie pour ceux qui le crucifient, alors qu'ils sont encore en train de se ficher de sa poire. Ils ne sont pas du tout dans la contrition ou dans les regrets, les remords. Ils sont en train joyeusement de se partager sa tunique de luxe. Ça, encore, un des tabous est révélé. Le Christ avait une tunique de luxe.
Ah, ouais. Griffée.
Voilà, griffée. Et donc, en fait, ils se partagent ça, et puis ils sont en train de se moquer de lui en disant bah, « Si t'es si malin que ça, t'as qu'à te sauver toi-même ou demander à des légions d'anges de venir t'aider. » Et bien pourtant, le Christ prie pour eux, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est-à-dire qu'en fait, ils n'identifient pas la personne à ses actes. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose d'important, et qui en même temps, ici, est aussi important, parce que là, c'est les actes qui ne sont pas bons, finalement. Et c'est les actes qui ont crucifié le Christ. Mais justement, Dieu, dans la fidélité à son alliance, il voit au-delà des actes des gens pour voir dans la personne d'abord l'enfant qu'il aime et la personne formidable qu'il aurait pu devenir s'il saisissait enfin un peu l'enjeu des choses, etc. Et donc finalement, je crois que dans le verset 18, si vous voulez, tout homme qui tombera sur cette pierre sera brisé, celui qui tombera, sur qui elle tombera, elle le pulvérisera. C'est pas si clair que ça, si vous voulez, quand on regarde de près. D'abord parce que le tout homme, assez souvent, si vous voulez, ce tout homme, c'est toute dimension dans chaque homme. Parce que d'abord, vous savez, pour ces petites prépositions... c'est pas facile de savoir s'il s'agit d'une personne ou d'une dimension, d'une chose. Ça peut être neutre, ça peut être masculin, c'est pas toujours évident. Et quand bien même ce serait tout homme, comme bien souvent, comme dans le psaume 1er, comme dans la parabole du jugement des nations de Matthieu 25, en fait, on est tous à la fois le juste et le méchant de l'histoire. Dans la parabole de la brebis perdue de Luc 15, d'ailleurs, extraordinaire parabole qui est vraiment le cœur repris par tous les chrétiens des premiers siècles comme étant le cœur même de l'évangile. La brebis la plus perdue de chez perdue, elle n'a pas besoin de tomber à genoux et de confesser une contrition parfaite pour que le berger aille à sa recherche. Et puis le berger sans cesse ira chercher cette brebis, jamais ne se lassera d'aller le rechercher. Et il n'y a pas marqué à la fin, peut-être que s'il la retrouve, il la ramènera, non. Lorsqu'il la retrouve, et il la retrouvera, c'est le projet de Dieu, et Dieu se débrouillera pour le retrouver. Donc à mon avis, ça, il faut le comprendre plus tôt, et je crois que c'est possible de le faire, en particulier, sera brisé, c'est sunslao, quand on regarde, en tout cas, c'est un verbe qui est assez rare, en fait, dans les évangiles, mais quand on regarde, c'est dans les Septante, c'est-à-dire que ça apparaît dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, et c'est vraiment l'idée d'être retranché au sens où on taille une vigne, si vous voulez. Et après, le pulvériser, ça, c'est pas mal traduit, parce qu'en fait, c'est l'ikmao, ça vient de l'iknon, le vent, si vous voulez, pour vanner le grain. Donc, les deux, c'est finalement une idée de purification dans un certain sens. Alors, on pourrait le dire, c'est une personne qui était comme un rameau, un sarment sur une vigne, on retranche la personne tout entière, on la met à la poubelle, je crois pas. On est en fait plutôt l'idée que Dieu va nous purifier, va nous purifier de l'homme mauvais en chacun de nous, et que son projet reste que nous soyons sauvés par son amour. Ça, on peut retrouver la même chose, à mon avis, dans 1 Corinthiens 3. Vous savez, il y a Paul qui dit « Chacun... » construit finalement sur la base qu'est le Christ, à mon avis, qui est le fond essentiel de l'enfant de Dieu en chacun de nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on construit dessus avec de la paille, avec du bois, avec de l'or ou de l'argent. Et alors les gens lui disent, mais si s'il ne reste rien, si tout est consumé finalement par le jugement de Dieu, eh bien, Paul dit, ben, cet homme-là, il sera quand même sauvé, mais comme au travers le feu, finalement. C'est-à-dire qu'il y aura ces regards, cet amour purificateur de Dieu. Bien sûr, dans les œuvres de cette personne, peut-être que quelqu'un a fait que des monstruosités, eh bien, on n'y aura rien à garder de sa vie, rien à garder de ses œuvres. ben, il restera quand même par l'amour de Dieu, voilà, le cœur même de la personne, à mon avis, qui est l'enfant de Dieu, et on sera sauvé comme ça. Et je crois que peut-être je verrai ça là-dedans, moi, finalement, dans cette... Dieu reconnaît toujours son enfant dans une personne, même si ses œuvres sont nulles, ben, il se débrouillera, voilà. Et il y a quand même cet appel, si vous voulez, je crois, dans cette chose, justement pour qu'on puisse gratuitement, sans que la vie éternelle soit en enjeu, gratuitement donner du fruit, peut-être aller comme ce berger au devant des autres, au risque de notre vie même, aller appeler les autres à donner leur confiance à Dieu, donner des fruits de grâce, de miséricorde, de justice, mais pas pour gagner la vie éternelle, simplement parce que c'est avec joie et c'est bon comme ça, et voilà, c'est ça. Oui, je ne sais pas, on va dire de plus. Hein.
Je pense qu'on arrive,
oui, on arrive en plus
au terme. On peut peut-être inviter les gens à lire le texte.
À lire le texte, oui.
Du chapitre 23, qui est la montée, qui est le texte du chemin de croix, la montée au calvaire. Et vous pourrez peut-être compléter avec l'admirable chapitre 15 de Saint Jean, où vous avez l'image de la vigne. Mon père
est le vigneron.
Je suis le cep, vous êtes les sarments, etc. Et là, on a une sorte d'aboutissement de cette image de la vigne, où on découvre que la vigne, ça n'est plus Israël, mais c'est le Christ lui-même. Et nous donnons du fruit en tant que nous sommes greffés à lui. Donc là, on comprend bien ce que tu dis, d'ailleurs, à savoir qu'on ne donne pas de fruit pour mériter la bonne grâce du vigneron, mais on donne du fruit parce qu'on est greffé sur la bonne sève, sur le bon cep, celui qui ne va pas donner du verjus, mais qui va donner précisément du bon fruit. Donc je pense que l'image de la vigne, l'apothéose pyrotechnique, c'est le chapitre 15 de Saint Jean.
Ah oui, tout à fait. Puis là, c'est vrai que ça éclaire bien, c'est-à-dire que voilà, le rôle du Christ, finalement, qui est sève pour que nous vivions.
Voilà.
C'est pas quand Christ meurt sur la croix, il n'achète pas le pardon du Père, hein, comme dans certaines théories, si vous voulez. Dieu, de toute façon, est amour, mais il s'offre pour être ferment de vie dans notre existence.
Et puis, mais je pensais, voilà, c'est ça. Uniquement quelques mots sur le premier verset, donc du chapitre 23. Pendant qu'ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène. Il revenait des champs, ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Et quelques chapitres auparavant, Jésus a dit effectivement, celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. On voit bien ici, alors c'est l'ironie lucanienne, c'est-à-dire qu'évidemment le pauvre Simon qui est réquisitionné, il n'a pas du tout conscience d'obéir à une sorte de conseils évangéliques du Christ, et pourtant il y a quelque chose là dans la modestie même du personnage dont on ignore tout, il y a quelque chose là de notre condition, hein, il y a quelque chose du serviteur inutile, il y a quelque chose c'est le premier disciple du monde nouveau, voilà, un pauvre type comme ça qui a été réquisitionné, qui... Alors je dis ironie parce qu'effectivement il n'a pas conscience de... Mais en même temps, c'est grandiose.
C'est vrai, tout à fait. Partageons cette humanité du Christ avec Simon qui porte la croix. Bon, ben donc, on se retrouve la prochaine fois donc, à Saint-Eustache. Fils par le Fils. Alors, lecture de Romains, de Colossiens, d'Hébreux. Vous avez le programme derrière. Donc, le 4 avril, c'est ça?
Oui.
Le 4 avril.
Oui.
À 20h à Saint-Eustache. Donc merci de nous avoir rejoints pour cette soirée.
Merci beaucoup.
Et puis donc, à tout bientôt.